M4, MA001, Histoire culturelle de l'Occident contemporain, séance 8, enregistrement numéro 2. Je continue donc sur la révolte étudiante dans les années 60 et je passe à l'analyse de la situation en République fédérale d'Allemagne. L'Allemagne fédérale a en effet été l'un des principaux foyers des mouvements étudiants des années 60, peut-être même l'épicentre de la contestation européenne. L'impact politique et culturel du mouvement ouest-allemand s'explique à la fois par sa précocité, par sa durée, 3 ans, 1966-1969, par l'importance des transferts culturels venus des mouvements américains, ainsi que par l'influence de personnalités marquantes telles que Daniel Cohn-Bendit ou Rudi Dutschke, dont je rappelle qu'il s'écrit D-U-T-S-C-H-K-E. Le leader étudiant donc à Berlin, et des organisations ouest-allemandes dans la diffusion des idées, des pratiques politiques et culturelles jusque dans la seconde moitié des années 1970. Si le mouvement étudiant ouest-allemand n'a jamais pris l'ampleur du mai français, faute d'une convergence des luttes avec les ouvriers, il n'en joue pas moins un rôle clé en Europe occidentale. Le mouvement ouest-allemand trouve son origine dans une contestation générale du caractère autoritaire et restaurateur de la démocratie refondée en 1949. Cette contestation porte notamment sur les limites de la loi fondamentale, sur le manque de démocratisation sociale et sur l'absence d'alternance politique depuis les débuts de la République, avec la reconduction systématique de la coalition CDU-CSU-FDP au pouvoir. Elle critique aussi la continuité entre le régime nazi et la République d'Adenauer, les grands procès de criminels nazis, notamment le procès d'Eichmann en 1961 ou le procès Auschwitz en 1963, constituent des temps forts de la découverte du passé de leurs parents par la jeune génération. Les responsabilités subalternes exercées sous le Troisième Reich par les premiers personnages de la République fédérale, le chancelier Kurt Kissinger, le président Lübke, L-U-B-K-E, Kissinger, c'est K-I-E-S-I-N-G-E-R. Ces responsabilités, la révélation de ces responsabilités, illustrent la continuité des élites politiques, administratives, économiques, militaires ou judiciaires après 1945. Parallèlement, le rejet du régime communiste stalinien après la construction du mur de Berlin en 1961 contribue également à politiser une jeunesse étudiante qui renvoie dos à dos les régimes autoritaires ouest et est allemands. Alors que l'Amérique de Kennedy avait jusqu'alors constitué un havre de liberté et une référence pour de nombreux jeunes Allemands de l'Ouest, l'intervention américaine au Vietnam les fait peu à peu basculer dans l'anti-américanisme et dans l'anti-militarisme, au nom d'un idéal pacifiste. Dans le même temps, les luttes sur les campus américains influencent fortement la jeunesse ouest-allemande dans ses revendications libérales comme dans ses pratiques politiques et culturelles. L'ensemble de ces thématiques favorise une politisation large et croissante de la jeunesse ouest-allemande, en particulier dans les universités. L'université ouest-allemande est en pleine transformation, comme partout en Europe occidentale. La massification de l'accès à l'enseignement secondaire fait doubler les effectifs des gymnasiennes, qui passent de 963 000 en 1965 à 1,8 million d'étudiants en 1975, tandis qu'au cours de la même période, le nombre d'étudiants connaît une croissance brutale de 300 000 environ à plus de 830 000 étudiants. Dans un ouvrage qui fait date, Georg Pick, P-I-C-H-T, dénonce dès 1964 la catastrophe éducative qui menace alors l'Allemagne fédérale, faute de moyens suffisants consacrés à l'éducation comparée aux autres pays européens. En dehors du problème des moyens, nombre d'étudiants dénoncent également le caractère autoritaire de l'enseignement universitaire. La question universitaire n'est cependant en rien liée à un problème démographique, mais à une politique d'ouverture des niveaux supérieurs du système éducatif dans les années 60. Le cas de l'Allemagne de l'Ouest, comme celui de l'Italie, est d'ailleurs un parfait contre-exemple du rôle du baby-boom à l'origine de la contestation juvénile des années 60, puisque cette période correspond justement en Allemagne fédérale au creux démographique des classes nées après la guerre et dans l'immédiate après-guerre. La montée de la politisation au sein des jeunes générations ouest-allemandes s'explique moins par leur nombre que par une révolution silencieuse des compétences nécessaires à l'engagement politique par l'amélioration du niveau général d'éducation dans les lycées et les universités. La politisation de la jeunesse est fortement influencée par la dénonciation de l'autoritarisme par l'école de Francfort, en particulier par les travaux d'Herbert Marcuse et de Jürgen Habermas. La dénonciation de la société de consommation favorise l'émergence d'une contre-culture et s'illustre par l'activisme des groupes situationnistes, prenant la rupture avec les modes de vie bourgeois et la politisation de la sphère privée. C'est dans cette mouvance qu'est créée à Berlin-Ouest en janvier 1967 la Kommune Un, une communauté libertaire alternative rassemblant étudiants et artistes dans l'hédonisme et l'activisme anti-autoritaire. Dans le même temps, la rupture de la direction du SPD avec le marxisme, après le congrès de Bad Godesberg en 1959, conduit à l'émergence progressive d'un courant néo-marxiste à l'intérieur et à l'extérieur de la social-démocratie. L'ensemble de ces courants, gravitant à la gauche de la social-démocratie, forme la nouvelle gauche ouest-allemande, structurée autour de l'ancienne organisation étudiante du SPD, le SDS, Socialistischer Deutscher Studentenbund, dont devaient émerger la plupart des leaders de la contestation ouest-allemande, Rudi Dutschke, Bernd Rabel, Hans-Jürgen Krahl, Daniel Cohn-Bendit, Ulrike Meinhof. L'ensemble de ces divers courants revendique l'appartenance à un mouvement transnational, contestant à la fois l'ordre capitaliste et le communisme stalinien. Dans ce contexte, il n'est donc pas étonnant que les prodromes de la contestation étudiante se déroulent à Berlin-Ouest, campus universitaire à la frontière avec le bloc de l'Est, centre culturel novateur dans une société urbaine très conservatrice et profondément anticommuniste, ville internationale où les objecteurs de conscience viennent échapper au service militaire. C'est donc à l'université libre de Berlin-Ouest, Freie Universität, qu'ont lieu en 1965 les premières manifestations contre des régimes autoritaires d'étrangers et les autorités rectorales, puis lors de l'organisation d'un semestre Vietnam. Cette contestation estudiantine naissante trouve un puissant relais dans le rejet des lois d'urgence que le gouvernement entend faire voter grâce à une écrasante majorité au Bundestag, avec la formation en novembre 1966 de la grande coalition CDU-CSU-SPD. Cette législation, instaurant des mesures d'exception en cas de situation d'urgence dans le pays, devient rapidement le catalyseur d'une contestation anti-autoritaire qui s'unifie en opposition extra-parlementaire à l'automne 1966. Ce rassemblement de forces contestataires étudiantes et syndicales demeure toutefois limité jusqu'en 1967. La mobilisation s'amplifie à la suite de la visite du Shah d'Iran à Berlin-Ouest le 2 juin 1967, à l'occasion de laquelle les manifestations étudiantes contre le régime iranien se terminent par une violente répression policière et la mort d'un étudiant, Benno Honesorg, O-H-N-E-S-O-R-G. Cet événement a un retentissement dans tous les campus d'Allemagne fédérale et provoque une extension large des mots d'ordre anti-autoritaire à l'ensemble du milieu étudiant, tout en entraînant une radicalisation de la contestation. Au cours de l'année suivante, la moitié des étudiants ouest-allemands participent à des manifestations. L'agitation étudiante s'orchestre autour d'une série de campagnes contre les monopoles de presse, en particulier le groupe Springer, contre la guerre du Vietnam et les lois d'urgence. En février 1968, le Congrès international contre la guerre du Vietnam se tient à Berlin-Ouest et rassemble autour du SDS une large partie de la nouvelle gauche européenne avec une manifestation de 150 000 personnes. La tentative d'assassinat de Rudi Dutschke, le 11 avril 1968, entraîne un embrasement de nombreuses villes universitaires. Les troubles de Pâques, c'est le nom donc qui a été donné à ce soulèvement, à cette contestation violente dans de nombreuses villes universitaires. Plusieurs jours de violence contre les symboles de l'autorité et les biens du groupe Springer, donc ce grand groupe de presse, aboutissent à la mort de deux manifestants, et à une centaine d'arrestations. Cette vague de contestation échoue toutefois à mobiliser les ouvriers par suite du refus des syndicats de s'y joindre. En dépit de la manifestation de 60 000 personnes à Beaune le 11 mai 1968, le vote des lois d'urgence par le Bundestag le 30 mai sonne la fin d'une année de contestation. Si le mouvement s'essouffle progressivement en 68-69 avec la dissolution du SDS, Sa durée n'en a pas moins marqué profondément la culture politique d'une génération. Au-delà de l'influence idéologique sur les courants de la gauche ouest-allemande, pacifisme, écologie, extrême-gauche, les mouvements étudiants contribuent à normaliser en Allemagne fédérale l'action des masses en dehors du cadre parlementaire et syndical. Des grèves sauvages d'ouvriers éclatent ainsi entre 69 et 73. Le répertoire d'action des contestataires s'inspire largement des go-in, teach-in et happening hérités des mouvements américains, tout en proposant de nouvelles formes de participation politique à travers des initiatives citoyennes destinées à changer concrètement la vie. Tandis qu'une large part des héritiers de l'APO, donc ce mouvement de contestation, cette opposition extra-parlementaire, trouve un espoir politique dans la promesse du chancelier Willy Brandt d'oser plus de démocratie, la radicalisation progressive de certains mouvements conduit à l'émergence d'une branche violente et à la fondation d'organisations terroristes d'extrême gauche, le mouvement de juin ou la fraction Armée Rouge. Au-delà de ces différentes influences, les mouvements étudiants ont pour principale conséquence en Allemagne fédérale une politisation large de la jeunesse à l'échelle d'une génération. Au début des années 70, plus de 600 000 jeunes Allemands de l'Ouest militent dans une organisation politique. Cette génération est appelée à influencer à long terme l'histoire des luttes et des pratiques politiques et culturelles en Allemagne fédérale. Je vais maintenant passer à l'analyse de la situation en Italie, qui est un autre pays important pour comprendre le mouvement étudiant des années 60. Les années 60 constituent, pour la jeunesse italienne, comme ailleurs, en Europe et dans le monde, une décennie décisive de mobilisation générationnelle et collective, alors que l'Italie connaît dans les années du boom economico, l'équivalent italien des 30 glorieuses, un développement économique sans précédent, mais également sans modernisation sociale ou culturelle. Dans le contexte de forte mobilisation ouvrière du début des années 60, les étudiants ne soutiennent pas seulement les manifestations syndicales ou politiques, mais sont également porteurs d'inquiétudes et d'aspirations spécifiques qui trouvent dans la critique des différentes formes d'autoritarisme présentes dans la société un exutoire fécond et mobilisateur. L'institution scolaire en particulier est l'objet d'âpres critiques, alors que ses effectifs explosent à la faveur du baby-boom des années d'après-guerre et de la loi de 1962 qui porte l'obligation scolaire à 14 ans. Les lycéens, qui étaient 400 000 en 1951, atteignent 1 400 000 en 1967, soit 40% de leur classe d'âge, tandis que le nombre d'étudiants double entre 1961 et 1968. On passe de 250 000 inscrits à plus de 550 000. Cette contestation du quotidien croise des thématiques internationalistes, pacifistes, anticoloniales, qui mettent en évidence les phénomènes de transfert politique et culturel transnationaux, caractéristiques de la révolte mondiale de la jeunesse. L'oppression du peuple vietnamien par l'impérialisme américain, la révolution culturelle chinoise, les guérillas sud-américaines, la figure du Che ou les Noirs américains des Black Panthers, élargissent les horizons culturels et politiques de dizaines de milliers de jeunes Italiens. Les figures tutélaires et les références intellectuelles de la jeunesse nationale, de la jeunesse italienne, pardon, sont transnationaux. En 1962, Les Damnés de la Terre, l'ouvrage de Frantz Fanon, préfacé par Jean-Paul Sartre, est traduit en italien. Il est réédité 5 fois en 10 ans. En 1967, la version italienne de L'homme unidimensionnel d'Herbert Marcuse rencontre un énorme succès. En un an, plus de 100 000 exemplaires sont vendus. Parallèlement, au milieu de la décennie, la contre-culture beat, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, etc., se diffuse et porte en elle les germes d'une transgression ostentatoire et radicale du modèle culturel dominant. Les beatniks, libertaires, Provo, Capelloni, ce qu'on appelle les Capelloni, c'est les chevelus, protestent, donc les hippies, protestent contre la famille, le travail, l'école et l'armée. Les mobilisations antimilitaristes contre la guerre du Vietnam, pour l'objection de conscience et pour l'institution du service civil, se multiplient. En 1967, une marche pour la paix de Milan à Vicence, où se trouve une importante base de l'OTAN, est organisée par les radicaux, les anarchistes, les provos et les organisations de jeunesse de la gauche. Les groupes qui gravitent autour de la revue Mondo Beat, donc M-O-N-D-O plus loin B-E-A-T, organise des manifestations happening. Les jeunes y distribuent des tracts humoristiques et provocateurs contre l'armée, la guerre ou le conformisme intellectuel. Ils perturbent les fêtes de Pâques à Milan lorsqu'ils invitent à ne pas ouvrir les œufs destinés au Vietnam et qui contiennent du napalm. C'est évidemment un tract humoristique. Au mois d'août 1966, une enquête télévisée sur l'opposition naissante à la guerre du Vietnam aux États-Unis est programmée par la RAI, donc la RAI, la télévision d'État, et diffuse les chansons de Bob Dylan et de John Baez. Les manifestations en soutien au combat des Vietcong se multiplient. Le mouvement des droits civiques et le combat des Black Panthers influent également sur l'imaginaire collectif de la jeunesse italienne grâce aux revues de la gauche non orthodoxe, telles que La Sinistra, par exemple. Également des opuscules publiés par l'éditeur Feltrinelli et la publication en 1967 chez Einaudi, autre éditeur italien, de la traduction de l'autobiographie de Malcolm X. Dès 1967, l'underground italien lance des communautés et un mouvement d'occupation de maisons à la campagne. La libération sexuelle, le refus du service militaire, la consommation de drogue incarnent ces pratiques contre-culturelles qui, dans une Italie provinciale et bigote, constituent une véritable révolution. Quelques mois auparavant, en février 1966, une enquête sur ce que pensent les jeunes filles aujourd'hui, publiée dans le journal lycéen milanais La Sanzara, S-Z-A-N-Z-A-R-A, fait scandale. Les questions portent sur la position de la femme dans la société, et les lycéennes interviewées abordent les thèmes de l'amour prématrimonial, du contrôle des naissances, du travail des femmes et de la relation avec les parents. Les jeunes, poursuivis par la magistrature milanaise pour publication obscène, sont finalement acquittés. Mais l'affaire fait grand bruit dans la péninsule et provoque assemblées et débats. C'est dans ce contexte social et culturel que le mouvement étudiant entre dans une phase d'intense mobilisation, alors que le projet de réforme de l'université du ministre Gui, G-U-I, est accusé de renforcer les inégalités. L'événement déclencheur a lieu en avril 1966, lorsqu'à l'université de Rome, un étudiant socialiste, Paolo Rossi, R-O-2-S-I, est tué à la suite d'une agression de l'extrême droite. En signe de protestation, plusieurs facultés sont occupées. Les étudiants demandent et obtiennent la démission du recteur Ugo Papi, P-A-P-I, considéré comme responsable de l'impunité dont les néo-fascistes bénéficient alors au sein de l'université romaine. Le mouvement de protestation s'étend, tandis que le ministre de l'Intérieur démocrate chrétien simplifie les modalités de l'intervention policière dans les universités, confirmant aux yeux des étudiants l'autoritarisme et la violence des institutions républicaines. Quelques mois plus tard, en mai 1967, le livre phare du mouvement italien, Lettera a una professora, de Don Lorenzo Milani, qui est un prêtre et un instituteur du village de Barbiana, près de Florence, commence à circuler. Chef-d'œuvre littéraire, cet essai révolutionnaire décrit à partir d'un exemple local le fonctionnement du système scolaire italien qui exclut les fils de paysans et d'ouvriers, systématiquement humiliés par la culture dominante et la sélection de l'école bourgeoise. Il met en évidence les blocages de la société italienne qui se montre à l'école incapable de manifester le respect qu'une démocratie doit aux enfants des classes populaires. De larges extraits de l'ouvrage de Don Milani sont reproduits dès 1967 sur les tracts des étudiants, alors que les mouvements d'occupation des universités se multiplient à Trente, dans une université de sociologie où convergent des étudiants venus de toute l'Italie, mais également, et un peu plus tard, à la Sapienza de Rome, à l'Université normale de Pise et à l'Université de Palazzo Campana de Turin, à l'automne 67. Entre novembre 67 et les mois de mars-avril 68, le mouvement se diffuse dans les universités italiennes. À Rome, le 1er mars 68, de violents affrontements opposent étudiants, forces de l'ordre et militants d'extrême droite à la faculté d'architecture de Valle Giulia. Progressivement, toutes les villes universitaires sont touchées. Le mouvement étudiant italien est composite. Chaque université présente des formes d'organisation et d'action spécifiques. La situation à Turin, influencée par le mouvement anti-autoritaire allemand et la notion de pouvoir étudiant, est très différente de celle de Pise, plus ouvriériste, ou de celle de Rome ou de Milan, animée, elle, par des courants marxistes-léninistes d'orientation maoïste. L'année suivante, la protestation investit massivement les lycées, plus particulièrement les filières techniques, où les lycéens dénoncent l'absence de débouchés et les problèmes matériels liés à la scolarisation de masse. Le mouvement étudiant porte son attention sur l'université, sur la figure de l'étudiant prolétarisée, sur les stratégies de lutte contre l'autoritarisme et la sélection, mais également sur l'exploitation des ouvriers dans les usines et le patriarcat. Les documents fondateurs du mouvement étudiant dressent une analogie entre la condition ouvrière et la condition étudiante, qui seraient toutes deux subalternes et asservies dans l'ordre capitaliste. Le contenu et la forme des enseignements sont également l'objet de toutes les critiques, et les jeunes proposent cours alternatifs et séminaires. Une partie de la jeunesse italienne emprunte alors des itinéraires de politisation qui naissent à l'extérieur et contre les canaux traditionnels de la politique, alors que le Parti communiste voit émerger à sa gauche un mouvement de masse. La construction de liens avec le monde ouvrier au printemps 68 est un moment charnière de l'histoire du mouvement social étudiant italien. L'application du concept de centralité ouvrière, selon lequel seule la mobilisation des travailleurs permettrait de transformer radicalement la société, bouleverse le mouvement étudiant alors à son apogée. La création de commissions usines et de commissions étudiants et ouvriers dans presque toutes les universités italiennes, ainsi que la constitution de la Ligue étudiants et ouvriers à Turin en mai 68, lui permettent d'élargir ses horizons de lutte et amorce le déclin de la mobilisation de masse au sein des universités. Dès l'automne-hiver 68, étudiants contestataires et jeunes ouvriers trouvent dans les comités unitaires de base de l'usine Pirelli en grève un espace de rencontre et de mobilisation politique qui prend de court l'action syndicale. Les étudiants, engagés dans la lutte révolutionnaire, se perçoivent alors comme des militants politiques, engagés au service du prolétariat industriel. Entre l'automne 68 et la fin 69, le mouvement étudiant se dissout au profit d'une myriade composite de groupes d'extrême gauche influencés par l'ouvriérisme, l'anti-autoritarisme ou le marxisme-léninisme, directement impliqués dans les luttes ouvrières de l'automne chaud. L'intensité particulière, la force et la durée de ce qu'on appelle le mai rampant, le piano rosso italien, s'inscrit ainsi dans un processus de contestation qui traverse une longue décennie fortement marquée par la politisation et l'aspiration aux utopies et au changement social. Ainsi finit l'enregistrement numéro 2, qui portait donc sur la contestation étudiante en Allemagne fédérale et en Italie. Je voulais au départ faire un développement également sur le Royaume-Uni, mais j'ai trop d'informations, et donc ce que je ferai, c'est que je vais scanner les pages correspondant donc à la situation au Royaume-Uni, et je les placerai sur l'ENT, sur mon blog, en guise de documents d'accompagnement sur ce cours portant donc sur la révolte étudiante. Le troisième enregistrement portera, lui, sur la situation française.